BFM Business et CB News présentent HebdoCom avec Aurélie Planex.
Bonjour à tous, bienvenue dans HebdoCom. Aujourd'hui avec Frédéric Roy, le rédacteur en chef de CB News, nous recevrons Benjamin Marshall, membre du bureau du club des directeurs artistiques, co-directeur de la création chez TBWA Paris. Il viendra décrypter pour nous la 49e édition du prix des directeurs artistiques. Et puis avec Athénaïs Rigaud, directrice relations et expérience client de l'UDA, et Franck Tapiro, président de l'agence Hémisphère Droit, on parlera du laboratoire créatif lancé par ces deux organismes. Et puis en fin d'émission, rencontre avec Grégory Lausson, directeur digital marketing et communication de Guy Hockey. HebdoCom, ça commence tout de suite avec les news de Marie Valogne.
BFM Business, HebdoCom, les news.
On a appris cette semaine le départ de Martin Sorrel, le patron de WPP, après 33 ans à la tête du groupe qu'il avait fondé. Martin Sorrel démissionne sans attendre les conclusions de l'enquête interne le visant, enquête qui porte sur des soupçons d'irrégularité financière. Nomination surprise chez Vivendi. Vincent Bolloré cède sa place à son fils Yannick Bolloré à la présidence du conseil de surveillance du groupe. Il faut céder la place aux jeunes, a déclaré l'homme d'affaires lors de la dernière assemblée générale. Publicis annonce une croissance organique en hausse de 1,6% au premier trimestre, une performance supérieure aux attentes. Le chiffre d'affaires du groupe s'établit à un peu plus de 2 milliards d'euros sur les trois premiers mois de l'année. Le groupe de publicité bénéficie de la bonne dynamique en Amérique du Nord, mais aussi du gain de plusieurs gros budgets, Mercedes, Carrefour ou encore Riot.
Bonjour le monde, je m'appelle Louis XIV.
Pensiez-vous un jour possible d'entendre sa voix? À l'occasion du lancement de la dernière saison de la série Versailles sur Canal+, l'agence BETC et la société Voxygène ont réalisé une véritable prouesse technologique, reconstituer la voix de Louis XIV à l'âge de 60 ans. Taille des cordes vocales, disposition de la mâchoire, les données ont été compilées par des scientifiques et historiens pour arriver à la voix qu'aurait pu avoir le roi Soleil. En tout cas, c'est ce qu'ils nous disent. L'association AIDS a organisé une campagne sur Twitter cette semaine. Des personnalités comme Roselyne Bachelot ou Christina Cordula ont tweeté une image accompagnée du hashtag #ShareTheLove, une illustration représentant deux personnes qui font l'amour en ville. Puis le compte d'un certain Henri Yann Vernon tweet à son tour le dessin, et au fur et à mesure que le nombre de retweets augmente, l'image s'agrandit. Sauf que le compte est en fait faux et les initiales d'Henri Yann Vernon sont HIV. L'opération est organisée par AIDS et TBWA Paris pour montrer que le virus du sida se propage aussi vite qu'un tweet. En France, 25 000 personnes sont porteuses du virus sans le savoir. Pour attirer les talents du digital, Se Loger lance sa nouvelle campagne de marque employeur et des collaborateurs se sont prêtés au jeu. Audrey, conseillère client, casque sur les oreilles et qui a le tempo dans la peau. Valentin, développeur mobile, un ballon au pied et compétiteur à toute heure. Une façon de dire aux candidats que chacun peut trouver sa place. Le site d'annonce immobilière recrute chaque année entre 100 et 150 personnes.
BFM Business, HebdoCom. L'invité.
Et l'invité de la semaine, c'est Benjamin Marshall. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes co-directeur de la création de TBWA Paris et membre du bureau du club des directeurs artistiques qui a remis récemment ses prix. Alors, c'est quoi le boulot d'un directeur artistique d'abord aujourd'hui?
C'est très vaste. Comme le veut le nom, c'est un peu pompeux, mais c'est la définition de notre métier. C'est d'encadrer, diriger les différents corps de métier qui fabriquent une idée artistiquement, d'être garant du temple, de la qualité créative et du produit fini. Voilà, et travailler en collaboration avec les artistes pour amener le produit créatif à son paroxysme, si je puis dire.
Alors, dans les prix que vous avez remis là récemment, il y avait quand même une tendance qui s'est dégagée, c'est le craft. On en a parlé d'ailleurs, Frédéric, il y a pas très longtemps dans HebdoCom. Comment ça s'explique, cette tendance de crafterisation?
Je pense déjà que c'est une tendance mondiale. Je pense que la vulgarisation des technologies a permis d'élever mondialement le niveau. On le voit à travers rien que nos smartphones aujourd'hui. On fait des photos de qualité. On va pas citer la campagne de la petite pomme croquée qu'on voit sur nos murs qui montre le niveau des photos qu'on arrive à faire avec un téléphone. Donc déjà, il y a une tendance mondiale où le niveau du craft a augmenté. Mm-hmm. Ce qui fait que nous, dans nos métiers, on a dû accélérer pour être au-dessus de la moyenne grand public, si je puis dire. Et on a aussi des moyens technologiques qu'on n'avait pas avant. Et comme nous sommes dans la pointe de la flèche avec tous ces moyens-là, forcément, on a un niveau de craft qui augmente globalement. Donc c'est plutôt une tendance mondiale. Et nous-mêmes, dans nos métiers, on est obligé de se challenger. C'est super parce que ça nous ouvre des horizons quotidiens incroyables, quoi.
Frédéric.
Alors, ce qui est rigolo, c'est que l'une des campagnes qui a gagné le plus de prix dans les différentes catégories, il y en a beaucoup, c'est Plaido. Et alors là, c'est tout sauf technologique à la base, parce que c'est très crafté pour le coup, mais c'est de la pâte à modeler. Donc
c'est de la pâte à modeler, mais c'est une campagne qui est pensée, intégrée en fait.
Ouais.
Donc il y a un travail d'artisanat qui a aussi une grosse tendance qui revient, on voit chez les jeunes, et c'est tant mieux, on revient à des choses beaucoup plus concrètes, à l'objet, etc. C'est le storytelling aussi de cette affiche qui a amené un tel succès. C'est une idée qui est liquide dans le sens où elle se répand partout, dans différents points de contact avec énormément d'excellence et de craft abouti. Oui, au départ, c'est un travail d'artisan, mais il est pensé sur tous les canaux et décliné parfaitement.
Y compris
en rédaction également. Les radios sont extraordinaires, le site est très ludique, très bien pensé, donc c'est un très très beau boulot. Ouais.
Alors, nouveauté cette année, il y avait notamment la catégorie innovation. C'est quoi l'innovation aujourd'hui dans la pub?
Dans notre jury innovation, j'avais fait une définition de ce qu'est l'innovation, sans prétention aucune, hein, je suis allé... regardez un petit peu dans les grands festivals de publicité internationaux comment ils définissaient ça. Et l'innovation dans nos métiers, aujourd'hui, pour être concis, je dirais que ce n'est pas lié directement à une innovation technologique, mais c'est plutôt une approche de nouveauté. On va casser les codes sur un marché, par exemple. On peut être innovant dans la façon dont on a travaillé le produit sans utiliser forcément une technologie. Si je prends un exemple, par exemple... pour Castorama, TBWA a sorti un papier peint connecté.
Ouais.
Depuis tout temps, le papier peint, c'est du papier peint. Aujourd'hui, on rajoute une technologie qui est pourtant déjà ancienne, puisqu'on utilise un scan sur un papier peint avec des petits personnages. Et lorsqu'on scanne un personnage, on a une histoire associée qui sort directement sur sa tablette ou sur son smartphone. Et lorsqu'on scanne, on associe deux personnages, on a des histoires croisées. Ben là, c'est une façon d'innover sur un marché qui n'a pas bougé depuis des années. Quand on prend Ubisoft cette année pour DDB Paris, très belle campagne, The World with No Hero, où en amont, pour lancer un jeu vidéo, comment je vais ramener toute ma communauté à découvrir ce jeu en avant-première, ils ont innové dans la façon... pas technologiquement, mais innover dans l'idée, dans la façon de ramener la communauté, de faire un storytelling sur le jeu où on est rentré dans le jeu bien avant le lancement et découvrir le jeu, mais pas de façon scolaire, quoi. Donc ça, c'est vraiment dans ce sens-là que l'innovation a été jugée au club des directeurs artistiques.
C'est aussi une particularité du club des directeurs artistiques, c'est que il y a pratiquement tous les métiers sont représentés, y compris la typographie, il y a évidemment la photographie, dans tous ces détails, chose qu'on voit finalement assez rarement. Est-ce que là aussi il y a des tendances qui bougent? Est-ce que dans la typo, par exemple, l'innovation, la techno intervient? Est-ce que c'est des choses qui
Oui, alors déjà, c'est vrai que nous sommes issus de toutes les filières des arts appliqués. Donc, c'est extrêmement vaste. Ce qui fait la richesse du club depuis 49 ans. C'est une grande institution, une grande communauté de créatifs. Je suis très fier d'en faire partie et très honoré ce soir de pouvoir le représenter sur le plateau. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, dans la typographie, pour répondre à la question plus précisément, il y a un travail qui a été récompensé dans la catégorie innovation pour prototypo. C'est une façon de vulgariser dans le bon sens du terme au niveau du grand public la typo, puisque c'est un outil qui a été mis en ligne où on pouvait soi-même travailler sa typo et fabriquer sa propre typo en choisissant tout ce qu'on peut faire autour d'une typo avec toute la précision que l'on peut avoir. Et c'est grâce à la technologie qui, une fois de plus, pas innovante, mais qui a été pensée pour pouvoir la mettre sur cette plateforme web de façon communautaire, c'est une autre façon de travailler la typographie et la vulgariser dans le bon sens au niveau du grand public. Ça, c'est intéressant.
Un mot de Intermarché qui est annonceur de l'année. Pourquoi ce choix?
Bon, c'était une évidence pour l'ensemble du club cette année. Pourquoi? Parce que c'est un marché de la grande distribution qui est en mouvement énorme, on le voit depuis quelques années, et en création qui est devenue extraordinaire avec une compétition, avec des marques comme Monoprix ou Intermarché en tout cas, qui font une belle guerre en création. Pourquoi? Parce que c'est un format long. Traditionnellement, dans le fameux 30 secondes, ils font du brand content, si je puis dire, en télé, avec un annonceur qui va aller porter ce poids média, donc l'argent qui va derrière aussi, et qui va le faire en prime time. Bon, ben, je crois que voilà, on le voit derrière nous, c'est un film magnifique qui est d'abord parti de la télé et qui est devenu un film viral. Et puis il y a tout le travail de la marque au quotidien, aussi bien des campagnes d'affichage que du copywriting extrêmement ciselé. C'est le meilleur annonceur cette année. Il y a pas photo.
Merci beaucoup Benjamin Marchal. Je rappelle que vous êtes membre du bureau du club des directeurs artistiques et co-directeur de la création chez TBWA Paris.
Votre rendez-vous avec Audience. Santé, prévoyance et prévention. Audience, la protection sociale créative au service de la communication et des médias. BFM Business. Hebdo.com. L'édito.
Et cette semaine, on retrouve Simon Tenenbaum. Bonjour Simon.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, vous nous parlez de Procter & Gamble, premier annonceur mondial très critique, on le sait, sur l'efficacité de la pub digitale, qui vient d'annoncer une nouvelle organisation de ses agences pub aux États-Unis. Les équipes d'agences concurrentes vont être obligées de travailler ensemble avec comme objectif évidemment un, réduire les coûts, et puis deux, gagner en créativité et en agilité, c'est ça?
Oui, c'est pas franchement une bonne nouvelle pour les grands groupes de communication. Procter, cet annonceur évidemment de référence qui impose ce nouvel modèle d'agence. Alors ça concerne pour l'instant uniquement ces marques de lessive en Amérique du Nord, et l'idée effectivement c'est de réunir sous un même toit, dans les mêmes locaux, les équipes créatives venues d'agences concurrentes. Alors on parle de Saatchi & Saatchi chez Publicis, de Grès de chez WPP et de deux agences de chez Omnicom. Et cet attelage, voilà, assez inédit, sera dirigé par le patron de Saatchi & Saatchi à New York. Alors, la motivation effectivement en premier qui est mise en avant par Procter, c'est d'améliorer le créatif, de gagner en agilité, en particulier avec la pub digitale, d'être capable, voilà, de trouver des idées rapidement pour toucher à la fois un public large, tout en utilisant tout ce que permet le digital en termes de ciblage publicitaire. Le projet, pour la petite histoire, s'est concrétisé après le succès de la dernière pub pour la lessive Tide au moment du Super Bowl. Procter avait un peu expérimenté ce système à ce moment-là en associant déjà deux agences qui avaient dû, dans des délais très courts, trouver cette campagne qui a été une des plus marquantes du dernier Super Bowl. Mais effectivement, l'autre grande motivation de Procter, c'est de simplifier, de nettoyer son organisation marketing. Le géant a été très critique sur toute la complexité qui a été amenée par la pub digitale. C'est vraiment la voix qui critique beaucoup la pub en ligne, le gaspillage des ressources, la fraude publicitaire. Procter cherche à rendre son modèle plus efficace, et le groupe pense visiblement que de réunir plusieurs agences au même endroit, c'est ce qui va l'aider à parvenir à cet objectif.
Ce nouveau modèle, ça intervient aussi au moment où Procter a décidé de réduire ses dépenses de marketing.
Oui, parce que efficacité, le terme efficacité, ça cache souvent aussi réduction des coûts. Et effectivement, Procter le dit assez clairement, cette nouvelle organisation va permettre de réduire le nombre de personnes qui travaillent sur ces campagnes. Et c'est effectivement une nouvelle étape dans ce vaste mouvement d'économie lancé par Procter. Le groupe a réduit de 6000 à 2500 seulement le nombre d'agences avec lesquelles il travaille. Il a renégocié un nombre incalculable de contrats. Il a internalisé beaucoup de tâches qui étaient jusque-là réalisées par des agences, en particulier dans le digital, dans l'achat média. On a vu l'impact sur les résultats de WPP l'an dernier, évidemment. Voilà, il ne faut pas se tromper. Ce nouveau modèle d'agence, c'est aussi pour parvenir à cet objectif financier que s'est fixé Procter. C'est 400 millions de dollars d'économies supplémentaires dans ses dépenses marketing dans les 3 prochaines années.
Merci Simon Tenenbaum.
Votre rendez-vous avec Audience. Santé, prévoyance et prévention. Audience, la protection sociale créative au service de la communication et des médias. BFM Business. Hebdo.com. Le Zoom.
Et aujourd'hui, nous sommes avec Athénaïs Rigaud. Bonjour.
Bonjour Aurélie.
Vous êtes la directrice relations et expérience client de l'UDA, l'Union des annonceurs, et Franck Tapiro, bonjour.
Bonjour.
Le président de l'agence Hémisphère Droit, et tous les deux, vous êtes venus nous parler d'un laboratoire créatif. Qu'est-ce que c'est, Athénaïs Rigaud, que ce laboratoire créatif?
Alors, ce laboratoire créatif, c'est redonner envie de publicité aux Français. Ça, c'est vraiment notre objectif principal. Et on pense que ça peut passer par un concours d'affiches. Un concours d'affiches avec deux volets. Un volet marque et un volet lutte contre les incivilités, c'est-à-dire une cause. Et les créatifs vont pouvoir s'inscrire pour l'un ou l'autre volet. Nous avons déjà un certain nombre de marques qui sont participantes à ce projet et qui ont accepté de faire de leur marque le terrain de jeu des créatifs. Et c'est là où le projet est vraiment très innovant, parce que d'habitude on est plutôt dans un cadre assez fermé, on va dire, assez strict. Et là on va redonner la possibilité aux créatifs de libérer leur créativité. Et on va avoir un jury de personnalité composé donc de gens de la mode, des écrivains, des journalistes, qui vont sélectionner les meilleures affiches sur le critère de l'émotion. Et puis, on va aussi demander, pour la partie lutte contre les incivilités, à un jury de Français de choisir parmi une shortlist les 5 meilleures affiches et à partir d'une technologie très innovante, qui capte les micro-expressions du visage, eh bien, on aura la possibilité de définir quelle est la meilleure affiche de lutte contre les incivilités.
Frédéric.
En fait, c'est comme un sondage dont les participants sont observés, non pas à leur insu, je suppose, mais en tout cas, on va pas demander pratiquement vous l'aimez ou vous l'aimez pas. On va le détecter, c'est ça?
Tout à fait. Donc en fait, ça va être très objectif, puisque cette innovation, cette technologie D'accord. permet de capter ces émotions D'accord. et de les traduire de façon chiffrée.
Et ça marche comment ?
En fait, c'est un outil de facial coding, donc qui mesure les expressions du visage avec un algorithme assez puissant qui, seconde par seconde...
Vous filmez les gens qui passent devant les affiches, comment ça se passe ?
On détecte. En fait, non, les gens s'inscrivent, ils le reçoivent oui. sur un email, un lien. Par exemple, et un lien, ils cliquent sur ce lien, donc c'est un opt-in, c'est totalement CNIL et totalement...
RGPD compatible.
RGPD compatible, absolument. Ils regardent l'écran où sont diffusées toutes les affiches avec 5 secondes, un peu comme une affiche normale, avec un temps qui correspond à peu près à celui d'une affiche. 5 secondes, c'est suffisant pour ce qu'on appelle le stopping power, le fameux stopping power de l'affichage, pour montrer aussi la force d'une affiche. Leurs émotions sont calculées, et à la fin de toute cette opération de mesure émotionnelle, on agrège les données, et on arrive à voir quelles sont les affiches qui ont procuré le plus d'engagement émotionnel, le plus d'adhésion, le plus de rejet. Et ainsi, on peut faire le premier classement émotionnel d'une création, surtout sans poser de questions. Pourquoi ? Parce que c'est pour éviter le biais cognitif. Vous savez très bien, quand vous posez une question à quelqu'un, vous avez aimé ou pas, il va essayer de post-personnaliser, il vous dit pas forcément ce qu'il pense.
Et puis ça dépend comment la question Exactement. Est tournée aussi, bien sûr.
Absolument.
Et pourquoi c'est important de remettre de l'émotion comme ça au cœur des relations entre les marques et les consommateurs ?
Parce qu'on pense que c'est le rôle de la publicité, justement, de pouvoir créer et tisser ce lien émotionnel entre les Français et les marques.
Et quelles marques acceptent de participer
ouais, on a de très très belles marques, ouais. Vache qui rit notamment, qui fera partie de ce concours.
D'accord. Et donc, ce qui va se passer, c'est que les créatifs vont choisir l'une des marques.
Tout à fait, se positionner sur l'une des marques, ou en choisir plusieurs d'ailleurs.
Ou en choisir plusieurs,
d'accord. Absolument, et nous proposer leur création.
Mais la grande révolution de ce laboratoire créatif, c'est que pour une fois, c'est formidable que l'Union des annonceurs ait joué le jeu et que les marques participantes aussi acceptent de voir les affiches diffusées sans leur validation. C'est-à-dire qu'ils découvriront en même temps que le grand public
les affiches. Le 22 juin prochain.
Et ce qui est intéressant, c'est de voir d'abord que ce sont des annonceurs qui prennent le lead de la créativité. Ça change un petit peu, justement, parce qu'on est trop habitué à entendre que les agences et les créatifs. Et là, pour une fois, on se dit, si les annonceurs qui sont les premiers acheteurs de création prennent ce lead-là, ben voilà, ça va non seulement renforcer le lien entre les créatifs et les marques, mais surtout redonner, on l'espère, une grande envie de publicité. Et puis, pour les amoureux des marques,
Pourquoi
c'est intéressant de les voir.
Parce qu'il y a un désamour de la publicité, là, en ce moment?
Non, je parle pas de désamour, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un monde de contraintes qui est normal. La publicité, c'est non pas un art, mais on va dire un art de commande, puisque c'est un métier de business, hein. Il y a des résultats, des KPI, comme on dit aujourd'hui, et ça doit se transformer, évidemment, en chiffre d'affaires, ou en affection, mais qu'on mesure avec de l'impact, de l'agrément, etc. C'est un peu rationnel. Nous, on pense que d'abord, tout ça, c'est très intéressant, mais s'il y a de l'agrément, gens, et s'il y a même des ventes, c'est d'abord parce qu'il y a une création d'émotion. Et on oublie parfois cette chose trop importante, parce qu'on a rationalisé, ce sont en général les financiers qui s'occupent de communication aujourd'hui. Il faudrait peut-être à un moment ne pas oublier que même si on est financier, les émotions, ça se cumule, ça s'additionne et parfois ça se multiplie. Donc, que l'émotion redevienne...
Ce que vous dites, c'est que ça fait vendre.
Mais bien entendu, il n'existe pas de communication qui fasse vendre, qui n'ait pas créé une émotion forte. Vous regardez toutes les grandes campagnes. Tout à l'heure, on entendait parler du club des annonceurs. Ben, demandez-leur, leurs plus belles campagnes sont évidemment celles qui provoquent le plus d'émotions. Ça provoque l'émotion déjà de l'annonceur, du jury, et puis après, du public. Et bien entendu, ça provoque une émotion, ça provoque un souvenir, et ça provoque de l'engagement. Et l'engagement, c'est en parler, ou acheter, ou en faire la promotion.
Mais c'est pas qu'en est-il, pardon, de l'incivilité pour le coup, parce que là on est sur un autre terrain.
C'est un second levier, on va dire, de la publicité, c'est de faire passer des messages. Et on se dit que justement, on peut montrer au travers de notre concours que la publicité peut faire passer des messages citoyens. Et c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on va aller lancer un concours avec deux volets.
Okay. Et ça, ce sera diffusé.
L'affichage aura lieu le 22 juin. D'accord. Dans 10 villes. Je l'ai pas précisé, mais voilà, c'est un concours national qui sera relayé dans 10 villes françaises, de 10 grosses villes françaises.
Merci beaucoup, Athénaïs Rigaud. Je rappelle que vous êtes la directrice relations et expérience client de l'UDA, l'Union des annonceurs, et Franck Tapiro, président de l'agence Hémisphère Droit.
BFM Business. Hebdo.com. Comme un chef.
Grégory Lausson, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur digital marketing et communication du réseau immobilier Guy Hoquet, et vous avez mené au mois de mars une opération qui s'appelait le mois de l'estimation. Quel bilan en tirez-vous? Comment est-ce que vous avez communiqué autour de cet événement?
Alors, la communication était basée effectivement sur un nouvel estimateur en ligne qu'on a lancé donc pour le mois de mars, pour le mois de l'estimation. Et puis les résultats sont plutôt bons, même très bons, puisque on analyse sur notre site un très bon trafic, pas mal de générations justement d'avis de valeur en ligne de nos clients. Donc c'est une belle opération qui a bien fonctionné pour le réseau.
Alors, vous parlez d'outils en ligne. Comment est-ce que le digital impacte votre stratégie de communication? C'est vrai qu'on dit beaucoup que l'immobilier est en train de se digitaliser lui aussi à son tour maintenant.
Oui, je pense que comme tous les métiers, l'immobilier n'y coupera pas. On va arriver dans une ère où tous les métiers sont plus ou moins rattrapés par le digital. Nous, aujourd'hui, la stratégie chez Guy Hoquet, justement, c'est de consolider la stratégie marketing, communication et digital dans une seule justement structure qui nous permet d'allier les offres de services pour nos clients, et puis notre stratégie de communication qu'on va pouvoir déployer, et les outils digitaux qui vont nous permettre justement d'être plus proche de nos clients via des outils numériques, web, social media, etc.
Alors, pour accompagner cette opération, là, pendant un mois, on a pu voir l'agent Guy Hoquet à la télévision et sur les réseaux sociaux, une sorte de James Bond de l'immobilier qui incarne en fait vraiment votre marque. C'est important d'avoir un représentant, quelqu'un qui incarne cette marque, pour pas que ce soit totalement abstrait.
Exactement, Guy Hoquet, c'est une personne, c'est un nom et un prénom. Il fallait accompagner ce nom et un prénom d'une image, un objet publicitaire finalement qu'on peut retrouver dans d'autres marques. On est allé sur le côté effectivement rapprochement de l'agent secret, l'agent immobilier, pour faire la blague, comme on dit, mais globalement, en fait, ouais, on est très content aussi de ces campagnes de communication autour de l'agent, du second degré aussi que ça apporte, et puis du rapprochement, parce qu'il est, cet agent, mine de rien, est quand même très humain. Il ressemble beaucoup à notre réseau, qui est aussi très humain et très apprécié de ses clients.
Alors, je lisais en préparant cette émission que vous avez l'ambition de transformer chacune de vos agences en médias locales. Comment est-ce que vous faites ça?
Comment on fait ça? Eh bien, on s'équipe d'un nouvel outil, qui s'appelle la robot-rédaction. La robot-rédaction, c'est quoi? Finalement, c'est d'agréger tout un tas de données qu'on va trouver soit ce qu'on appelle l'open data, c'est-à-dire les bases de données libres de droit qui sont accessibles soit par le gouvernement ou d'autres structures. Et puis, ces petits robots vont nous permettre d'écrire des articles, et ce qui nous permet notamment de sortir un nouvel outil à partir de la semaine prochaine, qui s'appelle le guide des quartiers, et qui permettra, par exemple, quand je veux voir un bien immobilier sur le site d'une agence Guy Hoquet, je vais avoir à ma disposition un guide de quartier qui va me décrire vraiment tous les détails sur le quartier où je vais peut-être un jour habiter.
Et ça permet de se projeter plus facilement, alors?
Oui, tout à fait. C'est vraiment une manière d'agréger tout un tas de données et de leur donner un sens, parce que nos robots rédacteurs, ils savent très bien écrire et ils savent écrire en français sans faute. Donc c'est vraiment un outil qui permet justement aux clients d'en savoir plus sur tout un tas de sujets autour du secteur local où ils cherchent à acheter ou louer un appartement.
Merci beaucoup Grégory Lausson. Je rappelle que vous êtes le directeur digital marketing et communication de Guy-Hockey. Merci également à Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News, d'avoir été à mes côtés. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Hebdo.com sur BFM Business.
Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leurs stratégies de communication. Hebdo.com sur BFM Business.